Zaï Ziweni sur internet, on découvre des titres d'articles élogieux. Leçons de vie et de musique, une chef d'exception ou encore une chef d'orchestre parmi les hommes. Tous soulignent votre particularisme et pour cause.
Allez, c'est parti, merci.
Vous voyez le jour à Paris dans une famille d'origine algérienne accompagnée d'une sœur jumelle, Fetouma. Petite, vous rêvez de musique en écoutant les symphonies de Beethoven et Mozart. À l'âge de 8 ans, vous dirigez déjà la chorale de votre école. Mais au moment de vous inscrire au conservatoire avec votre jumelle, il ne reste qu'une place. Qu'à cela ne tienne, votre maman inscrit votre frère, suit les cours avec lui et vous retransmet la leçon en rentrant à la maison. Une fois intégré le conservatoire de Pantin, vous commencez à étudier la guitare, avant de bifurquer vers l'alto pour vous retrouver au centre de l'orchestre philharmonique. Car c'est bien la direction de l'orchestre qui vous passionne. En 1995, le grand chef roumain, Sergiu Chilibidac, vous repère et vous prend sous son aile. Après votre bac, vous vous inscrivez quand même à la fac pour suivre des cours d'analyse musicale, d'orchestration et de musicologie. C'est d'ailleurs sur les bancs de l'université que vous repérez les futurs musiciens du grand ensemble que vous lancez à seulement 20 ans, l'OSD, l'Orchestre Symphonique Divertimento.
1, 2, 3 et...
80 à 90 musiciens issus de Paris et de la banlieue qui, comme on peut le voir sur le site de l'OSD, se produisent toujours ensemble avec une quarantaine de dates chaque année. Dans des lieux mythiques, mais aussi dans des salles polyvalentes de quartier, car vous souhaitez décloisonner la musique classique pour l'offrir au plus grand nombre, jusque dans le milieu carcéral. Vous avez d'ailleurs créé votre propre académie il y a 10 ans pour promouvoir le goût de la musique chez les jeunes. Cette année, l'Express vous classe parmi les 100 Français qui nous inspirent. Vous aimez les programmations éclectiques, jazz, musique aborigène ou sud-américaine, classique arabe. Zaï Ziweni, si vous dirigiez un concert d'été ce soir devant nous, quel morceau choisiriez-vous?
Eh ben, je choisirais... je choisirais deux œuvres, si vous me permettez de pouvoir en faire deux. Alors, la première, ça serait la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns, parce qu'en fait, je suis en plein dans mes recherches musicales, et c'est aussi un petit peu notre tube avec l'Orchestre Divertimento. On va fêter nos 20 ans dans quelques semaines, voilà, les 10 ans de notre académie. Et c'est vraiment une musique qui permet la rencontre entre à la fois le langage symphonique européen, et puis à la fois l'inspiration d'autres cultures, et particulièrement de l'Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment aussi ma double culture.
Rencontre Carrefour.
Qui... Voilà, exactement. Donc, c'est un peu... l'œuvre dans laquelle je me retrouve pleinement. Et puis sinon, voilà, c'est West Side Story de Bernstein. Voilà, en ce moment, je suis en train d'étudier ça et c'est vrai que c'est de belles œuvres et puis aussi beaucoup d'œuvres de Bernstein et qui m'inspirent justement pour la création de ce programme musical Lenny que je suis en train d'écrire avec voilà, plein de super artistes à mes côtés et donc qu'on va présenter au Théâtre du Rond-Point prochainement.
Vincent, vous parlez de rencontres, notamment chez Saint-Saëns. Est-ce que vous diriez que la musique est un langage universel, c'est-à-dire qu'il est accessible à tous, quelle que soit l'origine, l'âge, le niveau social, etc.
Ah, complètement. Après, pour moi, c'est alors à la fois un langage universel et puis surtout, c'est un beau lieu de rencontre. Mmh. Et parfois, on a une image un petit peu peut-être cloisonnée ou un peu vieillissante.
Comment vous expliquez cette image très élitiste qu'a la musique classique et notamment l'opéra et le fait que pour certaines personnes, ça paraît inaccessible parce que trop lointain, trop cher, trop...
Bah, ça paraît inaccessible aussi parce qu'à la base, c'est aussi une culture européenne. Ouais. Et on est aussi dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ont des origines sociales et culturelles qui sont peut-être éloignées de ce patrimoine. Je trouve ça important justement de leur permettre de découvrir aussi ce qui a constitué l'histoire de la France, de l'Europe. Et puis aussi de leur montrer qu'au contraire, c'était aussi un lieu de rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres arts. Et c'est ce que j'ai envie, moi, de décliner dans ma programmation artistique.
On le voit là, vous faites quelques gestes avec les... non, mais pas beaucoup. Vous avez la réputation pour une chef d'orchestre de ne pas être dans une gestuelle exubérante comme certains de vos collègues, mais d'être plutôt justement modéré, pourquoi mesuré.
Oui, alors...
Pas de grands gestes.
Non. Alors après, j'essaye d'impulser en tout cas de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment... On reparle toujours de ces liens. Pour moi, le chef d'orchestre, il doit aussi donner de l'énergie.
Transmettre de l'énergie.
À l'orchestre pour qu'il en redonne aussi. Mmh. Donc voilà, je suis plutôt en fait dans cette dimension-là. Et puis après, je pense que le chef d'orchestre, il doit aussi se mettre à la portée, enfin, en tout cas, il doit être justement là pour défendre la vision d'un compositeur et pas forcément pour se mettre en avant. Donc pour moi, je pense ce métier-là vraiment comme un métier où on doit être efficace, où on doit justement donner de l'énergie, du plaisir. Et du coup, peut-être que je m'efface aussi pour pas être au devant de la scène simplement pour moi personnellement, mais au contraire d'être là plus pour l'intérêt général.
Là, le corps est quand même très présent. Alors, il y a les mains, à défaut des grands gestes, il y a l'oreille évidemment, et puis il y a les yeux. Vous travaillez beaucoup avec le regard.
Exactement. Et pour moi, vraiment le regard, c'est quelque chose de très important, ça permet de pouvoir justement créer le lien avec les musiciens pendant le concert, et puis aussi parfois soit donner l'envie de se dépasser, soit au contraire de susciter une certaine confiance, ou parfois un peu de fermeté quand je sens qu'il y a besoin de resserrer les rangs. Mais pour moi, en effet, le contact est très très important, et que ce soit d'ailleurs avec les musiciens comme avec le public, et j'aime ce métier pour les liens qu'on peut avoir, le partage avec le public, avec les musiciens. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi m'exprimer avec toutes les façons.
Votre parcours est assez atypique, enfin en tout cas assez rare. Vous êtes issu d'une banlieue populaire, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous avez dû franchir des obstacles pour arriver là où vous en êtes. C'était difficile peut-être?
Alors difficile, oui, ce serait mentir que de dire non. Après franchir...
Vous avez eu le sentiment à chaque fois de franchir justement des obstacles pour sortir?
Oui, oui, parce qu'il y a parfois aussi des habitudes, aussi un milieu qui a ses traditions, aussi ses conventions. Donc de par à la fois mes idées, en effet mon parcours, parfois on se heurte à certaines résistances comme le changement. Souvent c'est pas toujours simple. Après, c'est vrai que parfois ces difficultés, elles m'ont aussi amenée à être, je pense, une meilleure artiste, une meilleure chef d'orchestre. Peut-être que si j'avais eu certaines facilités, je me serais un peu plus concentrée sur une trajectoire personnelle. Et le fait de rencontrer ces difficultés, ça m'a amenée à être plus créative, plus inventive, à me dire bah, comment la musique classique, maintenant, on peut aussi la interroger peut-être notre société par justement ces dimensions de rencontre entre les cultures, sur la dimension de la diversité, qu'elle soit sociale, culturelle, intergénérationnelle. Donc franchement, ça a été... Ça reste encore difficile, mais presque j'en suis presque heureuse parce que ça m'amène toujours à être très inventive.
Et Zaya Ziwani, vous êtes une femme, et Caroline, les femmes dans la musique classique, bah, y en a pas énormément.
Et oui, et pour une fois, la petite musique des chiffres se fait fortissimo entendre. À vrai dire, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD rend depuis quelques années, chaque année d'ailleurs, un rapport sur la question de la place des femmes dans la musique classique, et c'est pas brillant. Sur 326 solistes instrumentistes, seules 92 sont des femmes. 9% des compositeurs répertoriés sont des femmes et 3% des chefs d'orchestre sont des femmes, c'est-à-dire qu'il y a 21 femmes sur 586 hommes. Les plus célèbres, bah, on en connaît quelques-unes. Zaya Ziwani ici présente, on connaît Claire Gibault, on connaît Laurence Équilbert, on connaît Emmanuel Haïm ou encore Sophie Janin. Il faut savoir en fait que les femmes n'ont pas dirigé d'orchestre avant la seconde moitié du XXe siècle. En tous les cas, c'est ce que j'ai lu. Et même aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Claire Gibault, par exemple, elle raconte qu'au début des années 2000, alors qu'elle assistait le grand chef Claudio Abbado, les instrumentistes, qui étaient tous des hommes, ont tous refusé de la laisser diriger, et même pendant les répétitions. Donc c'est pas gagné encore pour tout le monde. Pour remédier à cet état de fait, pas la semaine dernière, hein, c'est tout récent, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a affirmé son engagement en faveur d'une plus grande visibilité des femmes dans le domaine musical. Elle a d'ailleurs nommé deux d'entre elles, l'une à la tête d'un centre national de création musicale, l'autre en charge, c'est Laurence Équilbert, d'une mission sur le développement de l'art vocal en France, les chorales à l'école, on parlera peut-être des chorales à l'école, mais cette musique classique sexiste, vous en avez souffert dans votre parcours?
Bah oui, j'en ai souffert dans le sens où c'est vrai que c'est pas forcément aisé qu'on se présente devant un orchestre en ayant déjà un profil différent et en étant jeune et particulièrement une femme. C'est vrai qu'on est souvent très attendu, très regardé avec des personnes qui sont aussi très critiques en face. Après, je pense que de plus en plus maintenant, les orchestres et les musiciens ont envie d'avoir des bons chefs d'orchestre en face d'eux. Donc je me pose pas trop la question de savoir si je suis un homme ou une femme quand je suis en face. J'essaye d'être Zaya, d'être moi-même et d'être généreuse, exigeante et voilà dans mon travail. Après, oui, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés puisque quand j'ai commencé, c'est vrai que je m'étais interrogée de me dire, bah, moi j'ai envie d'être chef d'orchestre, comment est-ce que je peux le devenir? Je ne voyais pas de femmes diriger des grands orchestres nationaux, il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle. Donc on ne nous donne pas non plus la possibilité de nous exprimer, de pouvoir aussi diriger des projets ambitieux. Donc on est amené, toutes les femmes chefs d'orchestre que vous avez citées tout à l'heure, on a toutes créé nos propres orchestres.
Mais vous avez dirigé, alors ça n'était pas en France, un orchestre national, c'était celui de l'Algérie, le pays d'origine de vos parents.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand...
C'est
quand même quelque chose.
Votre mère a un rôle très important, celle qui vous transmettait les cours,
etc. C'est ça, tout à fait. Bah, mes parents, donc bah, évidemment, beaucoup de fierté. C'était pour moi très, très fort symboliquement. Je suis arrivée devant un orchestre qui était constitué uniquement d'hommes. Donc c'est vrai qu'avec peut-être aussi un peu d'appréhension, j'ai été très bien accueillie, très respectée dans cette fonction. Et puis voilà, ça a été une formidable aventure pendant 5 ans. Et j'espère que voilà, j'aurai l'occasion d'en vivre d'autres. Mais c'est vrai que parfois, on peut se dire, bah, tiens, je vais dans tel pays, un pays de culture, et on s'attend peut-être à avoir certaines facilités. Au contraire, parfois j'ai rencontré des résistances. C'est vraiment beaucoup aussi maintenant en fonction des hommes et des femmes qu'on a en face de nous en fait.
Et une autre facette de votre engagement, si j'ose dire, qui est plus récent, c'est qu'Emmanuel Macron vous a nommé au Conseil présidentiel des villes, qui se penche sur la banlieue, sur le sort de la banlieue. Qu'est-ce que Quelle est votre mission? Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette nomination? Qu'est-ce que vous y faites dans ce conseil présidentiel des villes?
En fait, c'est vraiment déjà un lieu d'échange et puis de pouvoir justement faire remonter notre expérience de terrain. Moi, j'ai choisi d'accepter en tout cas d'y être pour justement montrer, faire part aussi de mon expérience, de mes idées. Il est vrai qu'en France, il y a beaucoup de sujets où on peut voir qu'il y a beaucoup d'inégalités qui s'expriment. Et la culture, malheureusement, c'est un des sujets où il y en a le plus pour être très présente à la fois dans les grandes salles de concert, mais aussi très localement dans des villes en banlieue parisienne ou dans d'autres régions urbaines de France et aussi au milieu rural. On se rend compte que pour beaucoup de raisons, qu'elles soient d'ordre financier, sociologique, urbanistique, d'inégalité, c'est pas simple. Et donc j'avais envie aussi de faire remonter cette expérience-là, des idées pour amener, que ce soit le président ou même la ministre ou même d'autres personnes, de pouvoir faire évoluer les politiques publiques, parce qu'on a trop fait la différence entre les grands lieux, les grandes villes et les autres territoires, et il faut vraiment que ça change.
Et effectivement, de mélanger, de croiser ces expériences différentes et multiples qui montrent qu'en banlieue, il n'y a pas que le rap, c'est très bien le rap, mais il n'y a pas que le foot non plus. On en a beaucoup parlé du foot en banlieue cette semaine. Il y a aussi la musique classique, et notamment grâce à vous, Zahia Ziouani, merci beaucoup d'être venu partager avec nous cette expérience sur ce plateau.